BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel.
Bonsoir et bienvenue pour une heure et demie de votre moment favori de la journée. On va parler tech évidemment et innovation. On a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Tiens, avec l'intelligence artificielle et OpenAI qui devait lancer son chatbot vocal émotionnel. Finalement, ça va prendre un peu de retard. On va essayer de décrypter ça avec nos débriefeurs. On parlera aussi de cet étrange accord entre Volkswagen et le constructeur de camionnettes électriques Rivian aux États-Unis. Alors, c'est pas pour les camionnettes qu'ils se retrouvent, c'est autour de la plateforme logiciel et ça va loin puisque Volkswagen va investir plus de 5 milliards de dollars dans la plateforme logicielle de Rivian. Et puis en deuxième partie d'émission, tiens, vous aimez bien les télescopes intelligents, et bien si on vous proposait des jumelles astronomiques à réalité augmentée, c'est le français Unistellar qui fait ça. Et pourquoi pas, quand vous allez partir en randonnée, c'est bientôt les vacances, pourquoi pas emmener ces fameuses jumelles. On découvrira tout ça ensemble. Allez, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h30. Tech & Co, la quotidienne, c'est parti.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Bonsoir à nos débriefeurs. Bonsoir Marion Moreau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, journaliste fondatrice de Hors Norme Média. Hors Norme Média qui est une lettre internationale et notamment, on va parler avec toi d'international et de tech puisque tu étais en Ukraine il y a quelques jours et tu vas nous raconter un petit peu tout ce qui se passe là-bas dans le réseau télécom. Et tu nous faisais une anecdote juste avant en disant j'ai à peine atterri, donc tu as atterri il y a quelques jours et arrive une alerte sur ton téléphone disant dissolution de l'Assemblée nationale et tu t'es dit oh là mon téléphone s'est fait hacker, les Russes m'envoient des fausses infos. Bon bah non, c'était les bonnes infos, ça, mais non. On voit quand même dans quel état d'esprit on se met dès qu'on commence à aller dans ces régions où l'actualité est évidemment assez tragique. Avec nous également Lucas Perraudin. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, fondateur de Mulat Digital basé à Londres et ancien directeur de Meta Reality Labs IMEA. Ce sera intéressant de voir avec toi Lucas justement l'actualité des entreprises autour de l'IA, voir un peu comment ça se passe et on va voir un peu tout entre OpenAI, entre tous ces chants aussi Udio et Suno qu'on avait tous testé pour générer des chansons intelligentes. Et bien il s'en passe aussi des choses dans ce domaine et on va en parler notamment avec Bruno Guglielminetti. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Fred.
Voilà, tu es prêt, tu es à Québec, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique, que l'on vous conseille parce que c'est un regard, alors souvent de la même actualité que nous, mais avec un regard un peu différent, regard d'Amérique du Nord francophone, et toujours passionnante, et tes analyses, et tu es avec nous jusqu'à 21h. Alors on va démarrer avec, on a beaucoup de sujets, on a OpenAI, je l'ai dit, on a Udio Suno, on va revenir dessus aussi, ça vous paraît anecdotique comme ça, mais c'est le prince des Pays-Bas qui, dans une interview sur CNBC, s'inquiète à son tour que l'Europe régule un peu trop et dit on est en train de se mettre encore plus de cailloux dans notre sac à dos sur le domaine IA, face aux Chinois, aux Européens. On parlera de tout ça. Mais on va démarrer avec OpenAI qui repousse la sortie de son mode vocal. Alors il lance en parallèle l'app desktop, on y reviendra. Mais c'est un chatbot vocal. Alors certains diront, mais on l'a déjà le chatbot vocal, c'est celui du 4O. Non, c'est un chatbot vocal émotionnel. C'est ça, hein, Lucas. Il le retarde. Alors voilà, il y a des soucis techniques.
Ce qui change, c'est la rapidité. Ouais. C'est le moins de latence parce qu'ils veulent vraiment qu'on ait une conversation naturelle avec. Et donc, il faut changer un peu le computing, le local versus cloud, etc.
Il faut que ce soit beaucoup plus fluide. On est dans la dynamique.
Par contre, je trouve que la headline, le titre est inversé. Le gros titre, c'est la desktop app de OpenAI est disponible sur Mac, elle sera disponible sur PC.
Ah, tu trouves que c'est par ça qu'on aurait dû commencer?
Je trouve que c'est extrêmement important parce que, compte tenu du temps, moi je sais que GPT a mangé mon temps de Google et mon temps de Meta Platforms, et TikTok je regarde plus du tout, et que la disponibilité là, c'est vraiment la guerre qui commence, c'est-à-dire la guerre pour le real estate du PC, c'est-à-dire contre Chrome. Et donc c'est extrêmement important. Et cette application, alors moi qui suis un Android Windows user, qui ai essayé dans mes temps chez Facebook d'utiliser des Mac jusqu'à en devenir fou et à les rendre, je n'attends qu'une chose, c'est cette application pour que, par exemple, la discussion vocale sur l'interface web n'est pas possible, elle sera possible sur l'application native. Donc, moi, je passe mon temps à lui parler, lui demander de faire des choses, etc. Donc vraiment, je pense que en termes de captation de l'attention des utilisateurs, la grande nouvelle, c'est ça. Et effectivement, le conversationnel, ça va arriver.
Moi, j'étais parti sur le côté un peu négatif. Hein, c'est mon côté pessimiste de l'affaire. Donc, Bruno Guglielminetti, je t'entends sourire autour de ça. Donc, sur ce l'app macOS, hein, ChatGPT, on va démarrer avec ça finalement, et puis on reviendra sur le chatbot émotionnel. Bruno.
Ouais. Ben, c'est dommage parce que moi, j'aimais bien l'ordre dans lequel ça avait été présenté, pour faire exprès. Hein. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que OpenAI prenne son temps avant de nous livrer le mode vocal émotionnel, parce que les attentes sont très grandes. C'est un peu eux qui ont volé la vedette devant Google, devant Apple, en nous livrant cette nouvelle génération d'agents conversationnels. Maintenant, quand ça sort, va falloir que ça soit au point, même si c'est seulement les clients payants qui l'utilisent. C'est souvent eux qui seront les plus difficiles témoins de l'évolution des choses. Donc, il faut s'assurer que ça soit pile-poil sur ce qu'on nous a présenté, on nous a fait rêver. Alors, la déception, elle ne doit pas être au rendez-vous. Puis, l'autre côté, Lucas avait tout à fait raison. Là, ce qu'on est en train de voir avec l'arrivée d'une application sur Mac et très prochainement sur PC, c'est vraiment ChatGPT qui a décidé, OpenAI, pardon, qui a décidé de mettre le pied dans le temps qu'on accorde et de commencer à voler. L'expression, c'est en anglais, c'est le real estate, donc de l'espace sur les grands ordinateurs. On les a déjà sur nos mobiles, mais d'arriver maintenant, de débarquer sur les ordinateurs, ça ne doit pas être la joie chez Google.
Faut qu'on le raconte, c'est en natif, hein, c'est-à-dire que, parce qu'évidemment, on peut faire du ChatGPT sur son PC, sur son Mac, en passant par l'interface web. Là, on va avoir l'appui en natif comme on l'a sur son téléphone, hein, c'est ça l'idée.
On va ouvrir ChatGPT comme on ouvre Chrome aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, ça va permettre cette interaction conversationnelle. Alors, elle est déjà possible aujourd'hui. Il y a un peu de latence, mais oui. On s'en sert aussi. Là, il y aura moins de latence. C'est vraiment... L'idée, c'est de la rendre tellement fluide pour une adoption extrêmement rapide du grand public, hein, en étant en centaines de millions d'utilisateurs tout de suite. Je pense qu'ils ont le code pour ça.
Là, on est en train de virer la page Google, notre page de... On sait que déjà, on avait... Quand Google a sorti son moteur de recherche, enfin, lancé son moteur de recherche, on s'en était fini de nos favoris. Hein, on mettait tous nos sites favoris. Là, c'est notre première entrée, c'est la barre de recherche Google. Est-ce que là, Marion, on est en train de peut-être de vivre un petit signal faible, mais qui pourrait devenir très important, la fin de la page Google quand on lance notre navigateur?
Oui, moi j'ai quand même l'impression que ça ressemble à ça, je suis assez d'accord avec ce que tu disais. C'est vrai que pour moi, l'annonce là d'OpenAI qui va créer son propre écosystème, quelque part c'est un peu ça, mm-hmm. Quand on ouvre une application native, c'est clairement qu'on a une idée derrière la tête. Et là, c'est vraiment, je pense, une accélération des assistants intelligents. Ça va être effectivement le royaume post-Siri, de tous les acteurs qui s'étaient essayés au monde des assistants intelligent. Et là, c'est une accélération assez concrète. Après, sur le délai, vous le disiez, de cette sortie, bon, ils sont peut-être aussi un peu en retard. Hein. Ils sont quand même les champions de la com aussi, OpenAI, pour dire qu'ils sont là, qu'ils vont manger la planète. Bon, je pense qu'ils sont peut-être pas complètement prêts non plus et qu'ils ont envie de tester le marché, en fait, quelque part. C'est peut-être un ballon d'essai. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est un bon ballon d'essai.
Alors, on va revenir dessus. Juste continuer un moment sur macOS ChatGPT. Pour toi, oui, gros coup dans la fourmilière, Lucas, gros coup dans la fourmilière Google.
Oui, alors ça ne prévoit pas l'outcome, le gagnant. Simplement l'équilibre, c'est pour une fois un prétendant très fort, et derrière il y a Microsoft. Parce que la vraie guerre, c'est les moyens de... Et OpenAI tout seul ne peut pas y aller, mais Microsoft plus OpenAI versus Google, ça c'est une bataille titanesque qui est en train de se jouer, avec, pour une fois, c'est pas une histoire de Edge contre Chrome, où Edge n'a aucune chance de gagner. Là, on est dans des niveaux d'expérience utilisateur, parce qu'elle n'est pas faite par Microsoft, paradoxalement, qui a des chances de gagner. Donc là, c'est intéressant.
Et puis moi, j'entends beaucoup expérience utilisateur en entreprise aujourd'hui. Gemini, ça ne répond pas...
Alors, Gemini, pour avoir accès aux fonctions alpha, fait des progrès. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas...
Moi, j'entends quand même beaucoup fait des progrès, oui, mais c'est quand même pas au niveau de ChatGPT.
J'ai testé il y a des nouvelles solutions qui sont sorties aujourd'hui. On verra, encore une fois, on ne peut pas savoir aujourd'hui qui sera le gagnant, ou si ce sera un duopole ou trois acteurs, mais en tout cas, on sait qu'il y a un shift. De toute façon, Google a 90% de part de marché. Donc pour Microsoft, c'est du pain béni. Tout ce que prend OpenAI, c'est du bénéfice et ça affaiblit Google derrière. Donc c'est vraiment, il n'y a que des choses à gagner pour eux. Gemini devient meilleur. Gemini devient meilleur. Il y a le side panel. Je suis désolé. En plus, on a un camarade québécois qui va parler mieux français que moi aujourd'hui, donc j'ai honte. Mais il y a un side panel qui est sorti aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une conversation avec mon email. Au lieu d'aller filtrer mes emails, je lui dis donne-moi tous les emails de mes clients de telle société qui sont basés aux USA. BSH USA pour, et il m'a fait le filtre et il me les a donné directement, donc j'ai pas eu à manipuler. J'ai une conversation avec ma donnée et c'était relativement performant, donc c'est prometteur.
Bruno, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, ben, c'est ça, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle générative dans le contexte corporatif. Moi, ce que j'ai comme écho de clients d'entreprises avec qui je travaille ou des gens que j'interview, c'est beaucoup la percée de copilote. Ouais. Évidemment, bon, l'écosystème se divise en deux, hein, dans le monde corpo, évidemment, mis à part ceux qui ont misé sur Mac il y a longtemps, mais on regarde et la guerre, elle se fait entre la solution Gemini de Google et de l'autre côté, le copilote, et toute l'avancée que ChatGPT peut avoir sur le marché, ben c'est pour moi, en tout cas, c'est autant de plaisir et de bonnes nouvelles pour les gens de copilote, parce que l'avancée technologique qui est faite par les gens d'OpenAI, elle va bénéficier par la bande aux gens de copilote, donc pour eux, Microsoft, c'est gagnant partout. Et là, c'est de voir, un peu comme le disait Lucas, c'est de voir qui va se partager la part du gâteau entre Google et Microsoft dans l'écosystème PC.
Alors après, moi, je parlais d'entreprise française. Alors peut-être qu'il y a la version française qui est moins...
Non, je crois qu'il ne parle pas français, Gemini. Ouais. Juste pour dire, pour rebondir là-dessus, deux secondes. Alors nous, on fait beaucoup de projets AI. On voit deux types de projets. C'est rattraper les AI. C'est des gens qui ont acheté des licences copilotes. Il faut apprendre à la force de travail à s'en servir de manière productive. Parce que si vous payez 1200 ou 1000 euros par an, il faut que ce soit productif. Ouais. Donc, il faut repayer le training derrière pour qu'ils sachent prompter, etc. Et on a des projets AI qui, là, sont intégrer les données de l'entreprise dans un RAG, ce qu'on appelle un RAG, et un agent, etc.
On voit le RAG, c'est la partie là. Indexation et enfin, travail sur la donnée.
Copilote gagne, alors là, sur le point, c'est vrai qu'on a beaucoup, en entreprise, on voit plus de copilotes que Gemini. Oui. On offre Gemini, nous, mais on n'en vend quasiment pas aujourd'hui.
Alors, Marion, toi, sur cette bataille entre Microsoft et Google.
Oh ben c'est une bataille historique, hein, de toute façon. Hein. Je pense qu'on est quelques-uns à suivre cette bataille depuis longtemps. Moi, la bataille, elle va continuer, c'est évident, vu les investissements qu'il y a derrière. C'est quand même une évidence que la bataille, et Google n'a pas dit son dernier mot. Et c'est là où je pense que tu as raison. Si les outils sont imparfaits aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer quand même la capacité des ingénieurs, notamment de chez Google, à rivaliser avec les moyens qu'ils ont, dont ils disposent aujourd'hui. L'historique des données qu'ils ont aujourd'hui, c'est des patrimoines uniques au monde, je veux dire, aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'ils sont là pour entraîner, parce que tout ça est aussi une question de ce qu'on appelle l'itération des données, l'itération des moteurs, l'itération des machines. Donc cette itération, aujourd'hui, à part ces deux-là, ces deux géants, je ne vois pas trop qui peut rivaliser. Oui,
alors Meta plus Apple, en ce moment, on entend beaucoup parler de ça aussi, ça, c'est en cours là, de discussion.
Et puis il y a Claude aussi avec Anthropic. Mais moi, je vous assure, hein, moi, entreprise française, grand compte français, me disent ils trouvent que Gemini, ça pour l'instant,
parce que Gemini ne fonctionne pas en français.
Mais c'est donc qu'ils doivent l'utiliser quand même en anglais. Ils me disent quand même que les résultats sont moins bons. Enfin bon, c'est pour ça. Juste un mot, revenir avant de passer au sujet suivant, c'est le fait que c'est quand même étrange quand même que OpenAI retarde un peu la sortie. Alors oui, ils veulent que le produit soit parfait, mais on est dans une telle course de communication et on a tellement vu Google le premier qui l'autre jour avait sorti sa nouvelle IA qui nous conseillait de manger des cailloux, enfin voilà, pour parler de l'hallucination la plus importante, mais c'est étrange quand même.
Quand on passe de challenger à leader, on a plus de responsabilités. Donc quand ils nous ont mis 3.5 et qui racontaient la moitié du temps des conneries, excuse my French, on était toujours fascinés par sa capacité. L'autre 50% du temps, racontait des choses intéressantes et on n'avait pas beaucoup d'attentes. Si Google avait fait la même chose, on aurait tous jeté des pierres à Google en disant c'est pas votre niveau de service, c'est inacceptable. Et là, ils sont en train de passer à leader. Ça veut dire que si c'était deux fois plus lent ou trois fois plus lent que la démo qu'ils ont faite, le lendemain, il y avait des mèmes partout, etc. Et pour eux, en termes de PR, c'était pas intéressant.
Est-ce qu'il peut y avoir une histoire, je vais poser la question à Bruno, est-ce qu'il peut y avoir une histoire aussi de parce que du coup, comme Lucas disait tout à l'heure, il faut beaucoup plus de fluidité, il faut que plus de dynamisme. Ça veut dire qu'on sollicite davantage les serveurs, ça veut dire une puissance de calcul un peu plus, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher en consommation d'énergie. Est-ce qu'il y a ça aussi qui peut être, parce qu'on sent quand même que tous leur business model, ils le cherchent encore un peu, hein.
Ah ben, c'est certain que sous le capot, il y a toute une tuyauterie à développer puis assurer qu'elle est capable de livrer la puissance de données, de calcul et aussi d'analyse. Parce que l'expérience qu'on veut donner, là, c'est d'une fluidité qui est équivalente à celle de l'être humain. Et moi, je vous défie encore dans le monde, quand, mis à part l'utilisation tactile qu'on a d'un téléphone, là, la plupart du temps, quand on utilise des applications sur notre téléphone, il y a toujours un laps de temps, une latence. Et là, OpenAI, ce qu'on nous a proposé, et même pendant Vivatech, il y avait des gens d'OpenAI qui étaient sur le plancher à Paris et nous faisaient en coulisses une petite démo, et c'est très près d'une expérience vraiment fluide comme avec un humain. Alors, imaginez la tuyauterie que vous avez besoin sous l'appareil d'application pour que ça fonctionne effectivement comme ça, à la grandeur de la planète, 24 heures sur 24, pour tout le monde. C'est tout un défi. Et puis, il y a beaucoup de logistique à préparer là-dessus. C'est évident.
Oui, là, Marion, on rentre vraiment dans le film Air, hein, dont on parle toujours, cette intelligence émotionnelle avec qui on va discuter. Alors, dans le film, ils tombent amoureux, hein, c'est ça
Oui, c'est vrai.
Personnage.
Récemment, j'ai croisé Laurence de Villers, que peut-être
vous connaissez, évidemment. Oui, ici. Oui.
Professeur en IA à la Sorbonne. Et qui est...
Qui était ici à la nuit de l'IA, si vous voulez regarder.
Qui était sur ton plateau.
En replay.
Exactement. Et Laurence dit quelque chose d'assez flippant, il n'y a pas d'autre mot, c'est aujourd'hui, on prend par exemple du côté de l'Asie, de la Chine, peut-être ça existe ailleurs, on fait revue des morts, on dialogue aujourd'hui avec une IA, avec son disparu, ce qui pose quand même énormément de questions éthiques,
ça, c'est...
et des la face cachée de l'IA qui est quand même aujourd'hui aussi une réalité. Quoi.
Ça, vous pouvez le bricoler, on peut le bricoler chez soi, quoi, hein, donner une personnalité à une IA en fine-tuning ou en RAG. Vous pouvez le faire sur votre disque dur avec un IAMA local. Enfin, je ne veux pas parler trop techniquement, mais la prochaine étape, c'est plus quand on a des agents qui parlent à des agents, c'est-à-dire une AI avec laquelle on a une conversation qui va chercher des données dans un système, qui les ramène, qui les interprète et qui vous donne une décision, qui est responsable. C'est plutôt ça la problématique. Et là, il y a des agents qui sont en train de déployer, mais à une vitesse incroyable. Quoi. Donc, ça va être très intéressant.
Alors, autre sujet, c'est Bruno qui l'avait repéré, c'est la question d'utilisation équitable sur l'industrie de l'IA dans son ensemble. C'est Udio et Suno qui permettent justement aux utilisateurs, on a tous testé Suno, hein, on rentre un petit prompt et puis ça nous sort non seulement la musique, mais aussi les paroles. Et là, il y a certains labels qui commencent à bouger et à réclamer quelques subsides, hein, Bruno.
Ouais, ben c'est la RIA, c'est l'Association professionnelle de l'industrie du disque aux États-Unis. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est quand même eux qui ont réussi à avoir la tête de Napster à l'époque. Ça vous dit la puissance qu'ils ont. Et donc, là, maintenant, ils ont décidé de mettre leurs pieds à terre et devant des solutions d'intelligence artificielle générative comme Suno et comme quelques autres, là, ils ont dit, ben là, ça suffit la fête. Maintenant, il faut être responsable et payer le dû aux artistes qui vous permettent. Et là, ils ont vraiment épluché le catalogue, la capacité de ces IA génératives pour se rendre compte que finalement, il y avait des sonorités et il y avait probablement dans les bases de données d'apprentissage du matériel qui appartenait à des ayants droit qui représentent. Alors là, ils sont en train de contacter. Ben, ils sont plus qu'en train. Ils les ont contactés, ces grands joueurs de l'IA musicale, en disant, ben là, il faut que vous soyez en règle et donc qu'il y ait un partage de revenus. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir la réaction.
Ils l'ont chiffré, hein, d'ailleurs. Hein. Ils disent que c'est 150 000 $ par œuvre contrefaite. Hein.
Exactement. Alors évidemment, on peut s'entendre qu'il va y avoir une entente hors cours s'il y a entente, parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer 150 $ par œuvre. Puis il faut savoir que s'ils ont gagné contre Napster, ils n'avaient quand même pas réussi à convaincre Steve Jobs. Et c'est quand même lui qui, à l'époque, avec son iTunes, avait décidé qu'une chanson, ça valait 99 cents et pas plus, et au grand déplaisir de Ria et de ses membres. Alors il va falloir. C'est un jeu vraiment de géant, mais c'est pour vous dire que si l'IA générative et tout le dossier des ayants droit par rapport à tout le contenu qui a servi à leur création, à leur éducation, entre guillemets, bien là, on a quelque chose de très tangible du côté musical. Et ça serait intéressant parce qu'il y aura probablement une jurisprudence qui va être faite. Puis par la suite, tout le reste des agents conversationnels, tout le reste des IA génératives vont devoir vivre avec cette jurisprudence qui va se faire du côté de la musique.
On est, Marion, sur justement s'assurer que le droit d'auteur fonctionne pour ce qu'il doit être, hein, c'est permettre le caractère créatif, protéger la création, protéger l'invention, l'imagination, c'est ça ?
Oui, et le droit d'auteur, rappelons-le, est né en France d'ailleurs, oui. Parce qu'elle regarde nous le disait il y a très peu de temps sur un autre plateau, et oui, bien sûr, c'est une bataille. Alors c'est une bataille évidente et qui se comprend pour tous les artistes qui créent, c'est une évidence aujourd'hui. C'est aussi une manne financière intéressante quand même pour certains acteurs de l'industrie de l'entertainment. Bruno est d'accord avec moi. C'est quand même une opportunité de demander à des acteurs comme Microsoft / OpenAI de débourser quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc je pense aussi qu'au même titre que les ayants droit, la création, la protection de l'art et de la création en général va se poursuivre et va contraindre les acteurs de l'IA à s'y plier, il va y avoir aussi une économie autour des ayants droit qui à mon avis retrouve une nouvelle jouvence. Ouais.
Donc fini la foire, Lucas.
Je suis pas sûr. Non, pas du tout. Enfin, non. Cette discussion, elle est politique ou géopolitique, selon où sont ces entreprises, etc. Elle n'est pas technologique. D'abord, la première chose, c'est que, et c'est la même chose pour les LLM, on a fait le training sur 2000 ans de savoir, musical, linguistique, etc. Donc le savoir incrémental d'acquisition, c'est très faible, parce que nous, êtres humains, on utilise principalement du savoir passé, on crée très peu de net new. Donc ça, c'est fait. Ensuite, techniquement, un neural network, c'est impossible à rétro-ingénérer. Donc si vous donne
on ne pourra pas aller voir dans quoi il est allé chercher.
C'est impossible de remonter 170 milliards de paramètres les uns après les autres. Enfin, aujourd'hui, à l'heure où nous discutons. Donc, on ne peut pas savoir, on ne peut pas retrouver les training sets. Donc, si on accepte de nous les donner de bonne foi, on peut les reconnaître. Si on nous dit non, c'est impossible d'aller vérifier ce que c'était réellement.
Et donc c'est l'oreille, c'est l'oreille humaine qui va reconnaître, qui va dire ça.
C'est l'oreille, mais on peut mettre aujourd'hui il y a des choses qui existent. Il y a une espèce de Shazam qui existe quand il sort une musique. Il tourne à un espèce de Shazam qui essaie de regarder s'il reconnaît d'autres choses dont les droits sont déjà déposés, et il le fait évoluer ou il le sort pas. Donc ça c'est contrôlable. Donc et tout ça c'est dans l'air. Les modèles existent déjà. Même si on empêche cette boîte là de le faire, le modèle existe déjà. Il est déjà entraîné. En 10 minutes, vous pouvez aller le chercher sur Hugging Face ou sur une version dark de Hugging Face, le télécharger. Et si vous êtes beatmaker aujourd'hui, vous pouvez vous en servir comme vous pouvez aujourd'hui jailbreaker Llama. Donc c'est terminé. Les 2500 ans de savoir sont dans l'air qu'on respire, dans les modèles qui sont déjà entraînés. C'est vraiment une problématique de vitesse limite. Les voitures peuvent aller à 250, mais c'est limité à 30 sur certaines routes. Il va falloir qu'il y ait des gens qui les contrôlent à 30 à chaque fois, mais on ne pourra pas les empêcher d'aller à 250. C'est exactement ça qui se passe.
Non, il va falloir bien contrôler tout ça entre l'industrie et l'industrie de la musique. Je voulais qu'on fasse un dernier point. Tiens, je vais demander justement à nos deux entre guillemets étrangers, puisque Lucas vit en Angleterre et Bruno est de l'autre côté de l'Atlantique au Québec. Alors c'est une interview dans CNBC. Alors c'est le prince des Pays-Bas, voilà, qui pilote un accélérateur, qui s'inquiète à son tour que l'Europe régule trop et que cela limite le potentiel européen de l'IA face aux Chinois. Aux États-Unis, ça commence à chauffer un peu quand même au niveau des instances européennes. Quel est ton regard, Benoît, de Bruno, de tout ça?
C'est assez partagé. Évidemment, étant nord-américain, j'aime l'encadrement, mais moins que vous, européens et français, quand je regarde toutes les mesures que vous prenez en place. Sauf que il ne faut pas être hypocrite non plus. Tout ce que vous êtes en train d'encadrer, ça percole ailleurs sur la planète. Et les lois que vous avez, et françaises et européennes, mis en place il y a des années, aujourd'hui, le Québec, le Canada, la Californie en bénéficient. Et ça a fait des émules. Mais de l'autre côté, on peut toujours se demander je me souviens plus de l'expression, là, qui étreint, qui mal aimé, trop étreint, quelque chose comme ça. Et à trop contrôler, à trop encadrer la technologie et surtout tout ce qui est recherche et développement, se voit un peu embêté par tous ces murs, toutes ces barrières qui sont là. Alors ça s'en va ailleurs. Et puis le grand perdant, ça sera l'Europe. Mais entre-temps, faut pas être naïf. Le reste de la planète bénéficie de ce que vous êtes en train de faire aux géants de la tech Et par la suite, ben, c'est ça. Alors, vous passez un mauvais quart d'heure, mais c'est tout le reste de la planète qui en bénéficie.
Bon, ben, encore une fois,
c'est un peu la même histoire, là. C'est-à-dire que on ne peut pas brider la recherche et le développement. De toute façon, le législateur en est incapable. Et de toute façon, et brider le développement des modèles, ça empêche le développement des modèles. Donc même les Français de Mistral disent ça. Enfin, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'on peut pas induire des biais a priori avant le training, etc. On prend de la donnée, on entraîne les modèles. Les modèles vous expliquent tout ce que vous voulez, comment fabriquer une bombe nucléaire, etc. Quand ils sortent, ils sont capables d'utiliser tout le savoir. Et ensuite, on les bride. Et je crois que la législation, c'est sur les training sets.
C'est ça.
Et sur les guardrails, les garde-fous qui sont ensuite la responsabilité éthique. Donc ça me paraît, c'est encore une fois la même histoire que tout à l'heure. On va fabriquer des voitures qui volent. La question, c'est à quelle vitesse elles vont aller ou quand, comment. Mais on ne pourra pas les empêcher d'y aller. Et si une fois que les modèles sont traînés à l'étranger, ils sont extrêmement faciles à rapatrier, à copier, à utiliser.
Mais quand on voit tout ça, parce que moi je mets ça en parallèle. Alors on est dans les élections des grands postes au niveau européen. Donc c'est vrai qu'on a vu Margrethe Vestager qui est un peu montée au créneau, faire un peu de com sur les amendes qu'elle veut imposer à Apple, à Microsoft, etc. Mais là, je trouve que voilà, on a. Il pèse le poids qu'il pèse, le prince des Pays-Bas. Mais enfin, quand même, il porte sa voix sur des médias britanniques. C'est pas le premier à le dire, Marion.
Oui, mais il y a comme ça quand même. En fait, d'abord, je pense que pour les politiques, souvent, bien souvent, je parle de la sphère institutionnelle au sens large. La compréhension, c'est un petit peu comme le temps de la justice. La compréhension de ces enjeux-là, elle vient assez tardivement. C'est pas une insulte. Hein, on l'a vu dans l'histoire. La technologie va beaucoup plus vite en fait que la compréhension à la fois juridique, institutionnelle, etc. Donc ça arrive maintenant, ok. On l'avait dit un jour sur un plateau ici à Tech & Co, à propos de cette accélération comme ça et cette recherche débridée qui est quand même dans la main de la sphère privée. Moi je trouve que ça pose un souci quand même, parce qu'aujourd'hui, on l'avait comparé d'ailleurs la dernière fois, je crois que tu étais avec nous sur le plateau et François aussi, c'est un peu comme si on avait laissé les Big Pharma créer des molécules et puis sans vraiment de nomenclature, sans vraiment de législation autour des autorisations de mise sur le marché. Là, on laisse quand même des acteurs faire tout ce qu'ils veulent en un temps record sans réguler dans le temps du développement. Et ça pose quand même une question. Et ça, je pense par contre qu'un politique est tout à fait en mesure de le comprendre.
C'est un sujet hyper difficile. Moi, je suis tout à fait d'accord sur les risques, la concentration du pouvoir économique et maintenant sociétal. Mais c'est déjà le cas pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les élections en Europe depuis 7-8 ans, 10 ans, sont influencées par des fermes de contenu, etc. Donc, et on ne les a pas empêchées, on ne les a pas rendues responsables des fake news qui sont diffusées. Donc, c'est déjà le cas. Donc ça, c'est vrai. Le problème, c'est comment est-ce qu'on régule ? Techniquement, comment est-ce qu'on régule ? Alors, je connais assez bien les AI, les algorithmes, le training, l'inférence, MLOps, etc. Je ne saurais pas vous dire comment on peut réguler ça. Enfin, c'est un sujet extrêmement complexe une vitesse d'itération extrêmement rapide.
On voit l'IACT, hein, on régule par les risques et on régule à posteriori quand on.
Ouais. Je sais comment m'en servir et en faire un avantage compétitif, mais réguler, c'est très compliqué compte tenu du fonctionnement même de. C'est des algorithmes avec de la donnée, c'est dématérialisé, c'est dans l'air, c'est hyper difficile à.
Allez, on va poursuivre. Merci à tout le temps. Vous restez bien entendu avec nous pour la deuxième partie de ce débrief. C'est dans un instant après le journal de l'Écho. On parlera évidemment de Volkswagen qui signe un très gros contrat, 5 milliards. Marion qui était là en Ukraine et qui a vu l'état des réseaux ukrainiens, justement. Et puis tiens, en parlant des réseaux, AT&T qui voudrait que les big tech subventionnent un peu. Tiens, voilà un sujet qui revient aussi au devant de la scène. Allez, tout de suite, le journal de l'Écho, vous êtes sur BFM Business.
BFM Business, l'info éco.
Le journal de l'Écho, 20h32 sur BFM Business. On l'a un petit peu dépassé avec nous, Marjorie Adelson. Bonsoir Marjorie.
Bonsoir Fred et bonsoir à tous. On commence avec cette mauvaise nouvelle pour Novo Nordisk. La première capitalisation européenne annonce ce soir 764 millions d'euros de dépréciation en cause de l'échec d'un essai clinique pour un traitement contre l'hypertension. Il avait été acquis pour 1 milliard d'euros. Le laboratoire pharmaceutique doit publier ses résultats trimestriels le 7 août. Ça avance du côté de Metex, alors que l'entreprise de biochimie est en cours de démantèlement. Sa filiale Nuvista va être reprise par la start-up belge MASH. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les protéines végétales pour remplacer la viande. D'après son offre, seuls 10 emplois sur 46 seraient maintenus. L'info du jour, c'est bien sûr ce nouveau rebondissement dans la saga Atos. Le consortium mené par le patron de OnePoint, David Layani, se retire des négociations. Il évoque un désaccord avec les porteurs de dettes à propos des conditions de restructuration. Dimanche soir, lors d'une réunion de crise, David Layani indique avoir trouvé un trou de trésorerie de 500 millions d'euros par rapport aux derniers chiffres communiqués par l'ex-fleuron de l'informatique. De son côté, Daniel Kretinsky, candidat écarté, se propose de revenir dans le jeu. Dans les entreprises, toujours, Bosch envisagerait de racheter Whirlpool. Selon Reuters, le groupe allemand réfléchit à faire une offre sur le géant de l'électroménager. Une acquisition qui lui permettrait de se renforcer dans le domaine et dans un contexte de concurrence avec l'Asie. Aucune des deux sociétés n'a souhaité commenter. La capitalisation de Whirlpool s'élève à 4,5 milliards d'euros. Un mot de géopolitique avec l'OTAN qui a un nouveau secrétaire général. Mark Rutte, le premier ministre néerlandais, a été nommé par les 32 pays de l'Alliance en remplacement du Norvégien Jens Stoltenberg. Il était en poste depuis 10 ans. Il prendra ses fonctions au 10 octobre. Une nomination qui intervient dans un moment crucial alors que la guerre en Ukraine se poursuit. On termine avec un mot des JO. La CFDT appelle les agents de sécurité à la grève vendredi, mais aussi pendant les Jeux sur certains jours qui seront au préalable définis. L'objectif, protester contre leurs conditions de travail et notamment sur le salaire. Sont concernés les agents de surveillance vidéo, de surveillance humaine et de la sûreté aéroportuaire. Plusieurs syndicats du groupe Aéroport de Paris menacent également de se mobiliser. Voilà pour les dernières informations économiques. À noter que le CAC clôture en baisse de 0,69%.
Merci Marjorie Adelson. Et tout de suite, on retrouve nos débriefeurs pour le débrief de la tech sur Tech & Co, la quotidienne.
Vous regardez Tech & Co avec Coexia. Connectons aujourd'hui les compétences pour construire le numérique de demain. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, on est reparti pour une demi-heure de débrief et puis ensuite on aura encore une demi-heure avec pas mal d'innovations. On parlera de bornes électriques, de moteurs électriques et puis on parlera aussi de ces jumelles astronomiques avec réalité augmentée. C'est un Français qui fait ça, Unistellar. On verra tout ça ensemble. Mais pour l'instant, on va revenir sur Volkswagen qui dévoile un plan à 5 milliards de dollars avec Rivian. On a les voyages de Marion en Ukraine et les réseaux télécoms là-bas. AT&T qui voudrait que les big tech, eh bien, viennent un peu mettre un peu d'argent dans la corbeille pour développer les réseaux internet et tout ça. On en parle avec Marion Moreau, journaliste fondatrice d'Ornorm Media, Lucas Perraudin, fondateur du Mula Digital, et Bruno Guguel-Minetti, journaliste et animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Il est avec nous depuis le Québec. Mais tout de suite, Étienne Braque, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Alors Étienne, Volkswagen, on va en parler dans un instant, qui dévoile ce plan à 5 milliards de dollars avec Rivian. Rivian, c'est un fabricant de camionnettes électriques aux États-Unis, mais là c'est sur un plan logiciel. Racontez-nous un peu, décrivez-nous un peu tous les enjeux autour de cette alliance.
Oui, deal très important qui a été annoncé aujourd'hui entre Volkswagen et Rivian. Un deal à 5 milliards de dollars afin de créer une co-entreprise. Alors, vous l'avez dit, Rivian, c'est une société qui fabrique des pick-up électriques, des SUV électriques. Souvenez-vous, elle est rentrée en bourse en fanfare en 2021. À l'époque, le titre était même sur des records historiques au point que sa capitalisation boursière dépassait les 100 milliards de dollars. À l'époque, ça impressionnait tout le monde, surtout à Wall Street, puisque c'était plus que General Motors, sachant que la société avait produit quasiment aucun véhicule. Bon, depuis 4 ans, le cours de bourse s'est littéralement effondré puisque vous avez une capitalisation boursière de 10 milliards ce soir contre plus de 100 milliards il y a 4 ans. Quasiment pas de véhicules qui ont été produits. Le groupe, même en février, qui a annoncé qu'il ne produirait pas de véhicules cette année. Des pertes qui se cumulent. Alors, ce ne sont pas des pertes spectaculaires. On est aux alentours des 4 à 6 millions d'euros depuis 3 ans. Une trésorerie qui est très importante puisque le groupe avait à l'époque levé plus de 10 milliards. Mais le problème, c'est que au niveau opérationnel, ça ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promesses chez Rivian et puis derrière, ils n'arrivent pas à suivre la cadence. Donc là, avec Volkswagen, ils vont créer une co-entreprise afin d'adapter un petit peu chacun ses spécificités. Volkswagen sait faire des véhicules. Rivian a l'expertise sur l'électrique, a l'expertise sur le logiciel. Et donc, ensemble, d'ici 2025 à 2030, ils vont produire des véhicules ensemble. Alors, pour Rivian, c'est bon dans le sens où Volkswagen va apporter son expertise. Et puis, de l'autre côté, pour Volkswagen, c'est l'occasion de mettre un pied sur le sol américain, un sol qui est très compliqué à pénétrer pour les acteurs européens. La nouvelle est saluée en bourse parce que Rivian gagne plus de 20% ce soir, mais perd toujours plus de 40% depuis le début de l'année, quand du côté de Volkswagen, le titre a reculé aujourd'hui du côté de Francfort avec une incertitude sur le plan opérationnel, puisqu'à la fin, c'est peut-être plus Rivian qui va gagner dans ce jeu que Volkswagen.
Merci Étienne Braque, Lucas Perraudin. Oui, tout le monde n'est pas Tesla. C'est compliqué de faire des voitures, mais c'est compliqué aussi quand on est constructeur de voitures de faire une plateforme logicielle qui tienne la route.
Ouais, Alors, pour avoir fait quelques fusions-acquisitions entre des industriels et de la tech, notamment avoir acheté Palm avec HP, etc., on peut avoir le meilleur des deux mondes, on peut avoir le pire des deux mondes. Pour être tout à fait transparent, j'ai essayé d'avoir un scoop parce qu'il se trouve que la CMO de Rivian, c'est une ancienne collègue à moi. On a bossé ensemble chez Reality Labs, on se connaît. J'ai envoyé des messages, mais elle m'a, comme disent les jeunes, elle m'a laissé en lui, quoi. Elle m'a pas répondu. Bon, de toute façon, elle aurait pas pu me répondre. Jen Penner. Mais, ouais, alors effectivement, on a parlé d'électrique, on a parlé de logiciel, on a parlé de capacité industrielle de production. Il manque un mot, c'est la data. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de véhicules Volkswagen qui roulent, qui ne capturent pas beaucoup de données. On a peu de véhicules Rivian qui roulent, mais qui savent capturer
de la donnée. Alors qu'Amazon avait passé une commande à l'époque, hein, il y a 4-5 ans.
Ils sont en cours de livraison à Amazon, et Amazon fait de l'électrique. Mais là, bon, dans le monde automobile, toutes les entreprises sont en train de devenir des entreprises de tech. C'est Tesla qui a du souci à se faire. Encore une fois, 50-50. Hein, ce genre de deal, c'est 50% le meilleur des deux, 50% le pire des deux.
Oui.
Donc, si on fait de l'industriel Rivian et de la data Volkswagen, ça va être catastrophique. Mais en tout cas, c'est une tendance qu'on va voir dans le monde automobile. Il y a Lucid, il y a Polestar, donc toutes ces entreprises natives électriques qui vont essayer de se marier avec les groupes Stellantis, etc.
Donc bon, on voit Renault, hein, Luca de Meo a créé même une software alliance avec plusieurs acteurs de la tech pour justement essayer de bâtir cette plateforme logicielle qui
compte sur les Renault. Je pense que ça va être très dur parce que intégrer de la technologie dans les entreprises traditionnelles, pour moi, l'avoir fait faire de la digital transformation aujourd'hui encore, même à l'avoir fait en interne, c'est extrêmement dur. Et une boîte comme Volkswagen, ça va être très très dur.
Surtout qu'on descendra pas dans les détails, mais si on décortique la Rivian, elle a aussi un système. Ils ont une spécificité. Hein, les Rivian, ils font du zonage de l'électronique. C'est pas une électronique centrale. On essaie de répartir ça sur les roues, sur les différents éléments de la voiture. Marion.
De toute façon, c'est un sujet qui est prégnant, hein, le logiciel. Depuis qu'on a appelé les Tesla un iPad sur quatre roues, c'est sûr que je pense que le marché de l'automobile a très très bien compris qu'il fallait y aller. Renault est déjà depuis pas mal de temps sur de la recherche, de la R&D dans ses bureaux d'études sur ces sujets-là. Non, c'est un joli coup, effectivement. Je rejoins ce qui a été dit dans la chronique juste avant. C'est un joli coup pour pénétrer le marché américain. Autant y aller, pourquoi pas. Et effectivement, racheter un acteur qui est un peu fragile, mais qui a un savoir-faire, c'est tout à fait logique en fait, en complémentarité.
Oui, on rachète la technologie, on met une entreprise qui va moins bien. Bruno, tu en as déjà vu tourner des Rivian là autour de chez toi?
Au Canada, il y en a encore très peu, sauf qu'il y a le concessionnaire, c'est drôle, qui vient d'ouvrir cette semaine à Montréal.
Oui.
Mais plus sérieusement, cette entreprise-là, l'entreprise californienne, sont faits d'armes et c'est la raison pour laquelle on en a beaucoup parlé. C'est évidemment par le fait qu'elle était le fournisseur officiel de véhicules électriques d'Amazon. D'ailleurs, c'est eux qui, à l'époque, avaient annoncé que d'ici 2030, ils allaient fournir 100 000 véhicules électriques à Amazon.
Et on parle de ça, c'était il y a 3-4 ans hein, déjà. Hein, ça fait un moment.
Oui, c'est ça. Puis entre-temps, voyant que c'est toujours mauvais en business d'avoir qu'un seul client, ils ont commencé à annoncer qu'ils s'étaient intéressés à vendre leurs véhicules à d'autres fournisseurs, ce qui n'a pas vraiment plu à Amazon. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et ils se retrouvaient un peu comme le bec à l'eau. Mis à part leur client Amazon, il n'y avait pas grand-chose. Alors, de voir un géant de l'automobile comme Volkswagen arriver en disant « Ben, nous, on est intéressés de travailler avec vous pour que, de part et d'autre, on puisse bénéficier de notre savoir-faire », je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est sûr que, du coup, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est de voir de l'argent frais arriver sur Rivian. Ça donne espoir aux gens qui aimaient bien leur véhicule de dire « Bon, ben, ils sont là encore pour un bout parce qu'ils ont un partenaire important ». Mais c'est pas vraiment un intérêt de voir Volkswagen arriver ici parce qu'ils sont déjà implantés en Amérique. Oui. Peut-être qu'ils ont encore plus à faire, mais ils sont encore présents. Donc, l'histoire, nous, on la regarde de ce côté-ci en disant, ben, c'est de l'argent frais qui arrive dans les coffres de Rivian. Bon. C'est une bonne nouvelle.
On rappelle Volkswagen, c'est Audi, Porsche et Volkswagen, bien entendu. Puis, il y a peut-être un autre acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est AWS. AWS, c'est un gros partenaire aussi de Volkswagen.
C'est un investisseur, mais c'est à travers
investisseur de Rivian, mais
l'Amazon. Juste, il reste
mais investisseur, mais aussi gros partenaire cloud de Volkswagen.
C'est un partenaire. Il reste 6 milliards de dollars sur la balance sheet de cash de Rivian, donc ils sont pas non plus. Ils en ont levé 10. Bon, il n'y avait pas d'urgence financière, ils sont très très loin de la banqueroute aujourd'hui, donc ça, c'était pas un problème. Encore une fois, moi, ce qui me. laisse un peu pas sceptique, mais en tout cas, ce que mon expérience de 30 ans de tech et d'intégration et digital transformation me dit, c'est que les Américains disent « culture eats strategy for breakfast ». La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et la culture de Volkswagen versus la culture de Rivian, on se parle de spectralement opposés. Donc, à moins qu'ils aient vraiment une volonté depuis le top de l'entreprise de changement avec une direction très forte et une gestion de la résistance et un management du changement qui soit fort, ça reste une greffe qui aura probablement du mal à prendre. C'est intéressant sur le papier, en exécution pour avoir fait un certain nombre de deals comme ça.
Après, il y a peut-être l'Atlantique qui va un peu séparer les deux, donc qui va permettre peut-être à une direction américaine de Volkswagen d'évoluer plus vite avec Rivian, mais rapatrier
les ingénieurs californiens qui vont aller expliquer aux ingénieurs à Karlsruhe ou à Ingolstadt comment il faut faire des voitures. Moi, je veux bien être dans la salle quand ça a lieu. Enfin, d'ailleurs, en général, on est dans la salle quand ça a lieu, nous, pour nos clients, pour éviter que ça tourne mal. Donc,
Bruno, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet?
Non, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Puis, on parlait du lien, et c'est important de le rajouter. Lucas a fait un bon point, de parler du lien entre AWS, qui est une filiale du groupe Amazon, qui sont très présents dans les activités de Rivian au niveau de comme fournisseur, entre autres, mais aussi comme investisseur. Mais en février dernier, là, il y a quand même le groupe Amazon qui avait perdu, quand on regardait la valeur de Rivian, $1 milliard comparativement lorsqu'ils avaient commencé à mettre leur mise au début. J'ai l'impression que c'est aussi une bonne nouvelle du côté de AWS et Amazon de voir Volkswagen
c'est pour ça que j'en parlais,
dans des cas.
Oui, c'est un écosystème.
Amazon, ils sont en train de regarder leurs investissements. Rivian, Twitch. Mm-hmm. Twitch n'arrive pas à gagner de l'argent, donc ils commencent à se poser des questions. Toute cette grosse vague d'investissement, ils sont en train de se demander est-ce qu'il faut sortir ou rester.
Ou est-ce que Google a fait il y a déjà 2-3 ans, a déjà commencé à regarder. Voilà pour ce sujet. En tout cas, on suivra ça. On va voir si les Volkswagen réussissent à bénéficier. Enfin, qui sera un peu le est-ce que ce sera le win-win ou est-ce que ce sera le lose-lose des deux. On verra tout ça ensemble en suivant cet accord. Marion, on voulait parler avec toi d'Ukraine. Donc pour ceux qui veulent lire un peu les reportages, c'est dans Hors Média, Hors Normes, normes au pluriel, allez voir. Tu étais en Ukraine et puis t'as vécu au quotidien la reconstruction, tant qu'on peut, des télécoms, la bataille des drones. Enfin voilà, dis-nous en deux mots un peu ce que tu as retenu de ce séjour.
Oui, j'ai effectivement passé 8 jours à la frontière avec la Pologne, à Lviv, qui est une ville relativement protégée de l'Ukraine, qui se trouve complètement à l'ouest, mais qui accueille malheureusement tous les mutilés de guerre. C'est là où il y a une machine, une industrie des drones qui tourne à plein régime, mais évidemment aussi dans les autres régions du pays. Alors globalement, si on doit faire un constat, et moi j'y allais surtout pour deux choses, c'est à la fois les télécoms et les infrastructures. Souvenez-vous, au mois d'avril, on annonçait quand même plus de 2,3 milliards de pertes sur les infrastructures. C'est près de 60 000 kilomètres de lignes de fibres optiques qui ont été complètement coupées. Et évidemment, c'est une des facettes de la guerre en Ukraine, c'est les communications, les télécommunications, et on parlera peut-être après de Starlink, évidemment. Donc je suis partie couvrir un événement où j'ai rencontré l'écosystème des télécoms ukrainiens, donc les acteurs télécoms nationaux, mais aussi tous les ISP, donc les fournisseurs d'accès au réseau, fournisseurs d'accès Internet. Et ce qu'ils me disaient, c'est que ils ont besoin d'aide, parce qu'aujourd'hui, même si la France a annoncé, je crois, un support de 10 milliards via un consortium dans les années qui viennent, même s'il y a des aides internationales, il manque encore énormément aujourd'hui de câbles, surtout de switch, des équipements. C'est vraiment là que...
Et notamment, on imagine sur toute la ligne de front, qui est sur des milliers de kilomètres, où là, dès qu'il y a la moindre infrastructure qui est construite, elle est détruite pratiquement aussitôt.
Exactement. Donc, comme tu le dis, sur la ligne de front, qui représente près de 1500 kilomètres, en fait, aujourd'hui, de frontières attaquées et investies par les Russes, où quand même on parle de villages rasés, effectivement, là, il y a des besoins. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce que j'aurais envie d'appeler les soldats des télécoms. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes qui ont parfois même à peine 30 ans, qui sont des gens qui travaillent dans les sociétés de prestations de services télécoms, mais qui vont sur le terrain à Kherson, à Kharkiv, et qui vont reconstruire comme ça des pylônes avec leurs mains et avec les moyens du bord. Et je trouve quand même que c'est intéressant de parler d'eux, parce que quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit, s'il te plaît, dis en France qu'on a besoin, on a besoin d'aide. Et c'est pour ça que je suis là ce soir aussi. Et je te remercie de me donner la parole parce que, en fait, ils ont besoin de communication. C'est très vital, évidemment, pour les citoyens, mais c'est vital aussi pour les hôpitaux. Mm-hmm. Les hôpitaux, aujourd'hui, ont été privés largement de connectivité. Donc, c'est vraiment comme l'électricité.
On imagine, hein, tout sans connexion aujourd'hui. Et puis, c'est vital aussi pour les drones, hein, qui servent évidemment à la guerre de façon surveillance, repérer les positions ennemies jusqu'à aller les bombarder. Là aussi, alors, tu disais beaucoup de drones chinois.
Oui, alors ce qui m'intéressait au-delà de l'état des télécoms aujourd'hui en Ukraine, c'est évidemment, alors c'est vraiment étonnant à voir, c'est les coulisses de la guerre des drones. Parce que l'Ukraine, je vous apprends peut-être rien, mais ce qui est très très... ce qui est hallucinant même, c'est le mot, c'est toutes les rues, toutes les écoles, partout, on fabrique des drones. Partout, partout, partout. Dans chaque rue, il y a une petite, l'équivalent du MJC que j'ai visité, mm-hmm. par exemple, avec des jeunes du quartier, hein, qui ne sont pas mobilisés sur le front, qui ont des imprimantes 3D et qui fabriquent les petites roquettes, qui mm-hmm. fabriquent les composants, etc. Et j'en ai interviewé beaucoup. Et effectivement, le drone chinois est majoritaire en Ukraine. Ils en ont acheté pour plusieurs millions. Très souvent, ce sont des gens qui sont même de la société civile. Hein, mm-hmm. L'effort de guerre, c'est des gens comme vous et moi qui faisons des drones, qui font des drones, pardon, à partir des sites, des drones qu'on trouve sur étagère. Sur l'e-commerce. Oui. Donc, c'est évidemment le DJI le fameux drone chinois. Tous les drones aujourd'hui civils sont de manufacture chinoise. Mais par contre, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de les redesigner. C'est-à-dire qu'ils vont pas acheter un drone et tout de suite l'envoyer sur le terrain aux soldats. D'ailleurs, directement aux soldats et sans passer par le ministère, visiblement, moyennement confiance, c'est vraiment on customise, en fait. Mm-hmm. On customise selon les besoins du terrain.
Oui, selon si c'est la surveillance, si c'est de l'arme plutôt offensive. Un mot aussi sur Starlink. Hein. Starlink, donc, très vite, c'est dès 2022, Elon Musk avait mis à disposition le réseau Starlink gratuitement. Bon, après, il a revu un peu son modèle économique, mais enfin, en tout cas, ils se servent beaucoup de Starlink, à tel point qu'il y a quelques semaines, il y a eu un gros piratage russe. Ils ont réussi Alors, les Russes avaient un système pour protéger leur propre réseau satellite et ils ont détourné un peu la technologie pour en faire une arme offensive, donc d'interférence magnétique avec des antennes sur des chars et qui vont repérer où sont pas loin des stations terrestres de Starlink. Et puis là, ils interrompent les communications ou ils les dégradent fortement. Mais comme ce réseau, lui justement, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Hein. On met une zone terrestre, on se connecte au satellite et la communication est faite. Et les militaires l'utilisaient beaucoup, bien que ce soit à usage civil. Enfin, c'est dédié à un usage civil, ils ne sont pas passé, il n'y a pas les normes militaires de protection, etc. Mais Starlink continue à être l'un des réseaux phares là-bas.
Oui, j'ai rencontré l'un des distributeurs de Starlink qui d'ailleurs a eu Elon Musk au début de la guerre au téléphone, selon lui. Et il me disait, nous, on n'avait pas forcément envie d'être distributeur, mais on avait un accès à Elon Musk et il était très content de nous fournir des antennes. Et effectivement, c'est essentiel pour eux. Starlink, c'est LiveCell ou les autres opérateurs terrestres ne fonctionnent pas, on peut compter sur Starlink. Et effectivement, ce sont des petits équipements qui se baladent partout, qui sont très faciles, qui sont assez accessibles. Hein. C'est largement moins de $300 l'abonnement par mois, donc ça marche très bien. Et en plus, quand j'étais là-bas, a été annoncé sur Twitter, sur X, donc évidemment
le Starlink
réseau,
Mini.
Le Starlink Mini, qui est une très très bonne nouvelle.
On a parlé ici l'autre soir.
Exactement. C'est une excellente nouvelle pour les Ukrainiens parce que ça va permettre évidemment d'équiper de plus en plus de terrains de guerre. Et donc c'est vraiment un gros enjeu. Je rajouterais juste sur les drones en Ukraine, c'est que les drones civils sont de manufacture chinoise, pour compléter ce que je disais tout à l'heure. Mais par contre, les drones, le reste du monde fournit aussi des drones. Hein. Oui, Zelensky a prévu, je crois, jusqu'à 1,5 milliard de drones pour cette année. Il veut augmenter la production de 2 millions de drones cette année. Donc c'est énorme. Et il faut bien distinguer les drones civils, qui sont les DJI qu'on achète pour faire voler ça dans son jardin, des drones militaires qui sont, eux, majoritairement occidentaux, c'est-à-dire États-Unis, France. La France a vendu énormément de drones. On pense évidemment à des sociétés comme Parrot, hein, qui étaient d'ailleurs, qui bénéficient, hein, de ce conflit-là. Mais il y a des pays étonnants comme ça qui ont bénéficié de cette guerre des drones. Et voilà. Et pour terminer, juste un mot, si tu me laisses encore une minute. Si aujourd'hui on a des acteurs télécoms, équipementiers qui ont envie de participer ce pledge qui a été le besoin des télécoms ukrainiens, mais c'est Equality qui fédère cette communauté. communauté des ISP et des télécoms en Ukraine et qui va envoyer tous ses câbles, ses switches. Et je pense que c'était bien de faire cet appel ce soir.
L'appel est lancé. Ben, merci Marion Moreau de ce témoignage. Et puis évidemment, les reportages à retrouver sur Hors Normes, donc le média que tu animes. Alors, on va rester dans l'univers des télécoms, justement, parce que là, c'est l'opérateur AT&T aux États-Unis qui veut que les grandes entreprises technologiques, donc les big tech, contribuent au fonds de subvention des télécoms et du largement. C'est John Stankey, qui est le PDG d'AT&T, qui est allé voir la FCC et qui dit il faut un fonds gouvernemental, les big tech doivent mettre au pot. C'est cet éternel débat. On aimerait aussi que ça se passe en Europe, mais là c'est une première, non, Lucas?
Non, c'est pas une première. C'est un peu difficile de rebondir derrière le sujet parce que ça paraît tellement futile que on va en parler, c'est pas une première. Depuis, les télécoms avaient le pouvoir quand on avait tous des GSM et qu'on payait nos abonnements 80€ par mois ou 100$. Enfin, aux États-Unis, c'est encore plus cher, c'est encore très cher aujourd'hui. Et qu'on avait des dumb phones et pas des smartphones. Et quand on a commencé à avoir des smartphones et du broadband, de l'internet rapide, cette chaîne de valeur, ce qu'on appelle une chaîne de valeur, et donc la rétention de valeur dans cette chaîne a changé des gens qui avaient l'infrastructure aux gens qui avaient le software. On est passé dans un monde du software. Le problème des opérateurs, c'est qu'ils sont bien souvent issus d'entreprises nationales. C'est très commoditisé. Il y a eu pas mal de concurrence pendant longtemps, et donc les
câbles aussi aux États-Unis.
Il y a du câble, il y a tout.
Mais ce qui est nouveau, c'est quand même qu'ils se tournent vers
Essayé plusieurs fois.
Avoir un fonds gouvernemental.
La régulation, la taxe, ça c'est pas nouveau. Ça a été le cas aussi en France, etc. Mais en France, il y a un acteur incroyable qui est Free, qui est le seul dans le monde à faire ce qu'il fait, qui fait que la tension et la pression est tellement forte que personne dans le monde telco peut faire quoi que ce soit. Donc pour y revenir, c'est pas la première fois. L'autre, Starlink, c'est une conversation, parce que Starlink, c'est un bypass, c'est un pontage qui permet de se passer de ces gens-là. Et avec un mini Starlink, on n'a plus besoin d'infrastructure. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ça devient supranational, parce que les opérateurs sont quand même nationaux aujourd'hui et très régulés. Il y a plein de questions à se poser là-dessus. Donc ça va être très difficile pour eux, parce que Google fait du câble, fait de l'accès Internet aux États-Unis. Tous les appels sont en voice over IP. Donc il y a probablement trop de pression dans le système, trop de concurrence, et les GAFA ont fait en sorte d'investir assez pour des choses qui ne sont pas de même échelle, mais qui...
Donc c'est un appel qui ne sera pas entendu.
Je pense que c'est très difficile, mais politiquement, ça peut marcher.
Bruno?
Moi, je me souviens d'histoires qui datent de l'époque de AOL. Alors, c'est pour dire, au début des années 2000, déjà, il y avait du lobby qui se faisait pour que des grandes telcos américaines et canadiennes aussi, de notre côté, qui faisaient du lobby auprès des instances gouvernementales pour que ces joueurs-là puissent ou doivent payer une partie de la bande passante qu'ils en prenaient. Évidemment, quand la vidéo est arrivée, vous imaginez, quand YouTube est arrivé, là, tout le monde a regardé du côté de Google en disant, vous êtes en train de prendre la moitié de la bande passante terrestre, est-ce que c'est possible de payer quelque chose? Et depuis, ça revient...
Puis il y a des Netflix et tout ça qui consomment énormément.
Exactement, oui. Mais ça revient, je vous dirais, probablement aux 4 ou 5 ans, et puis chaque fois, les gouvernements font la sourde oreille, parce que le lobby des géants de Google, Meta et même Microsoft sont très puissants. Alors, ils vont pas... J'ai pas l'impression qu'ils vont encore donner réponse à cette demande-là. Elle est là et elle existe.
Moi, c'est l'histoire de tourner vers la FCC, ce fonds gouvernemental. Alors, ils ont toujours
eu... Il n'y a pas de business case. Ils gagnent de l'argent, ils en gagnent moins. Ils sont dans une concurrence forte. Mais il n'y a pas de business case pour... AT&T veut arrêter Netflix et bloquer les IP Netflix, ils peuvent le faire.
Ils revoient sur leur serveur de charge.
Ils le font pas parce que leur réclame. Ils veulent régler une problématique économique à travers une régulation. Aujourd'hui, il n'y a pas de business case.
Bon, on n'y arrivera pas, Marion.
Non, puis alors encore moins aux États-Unis où la neutralité du net a été restaurée alors qu'elle avait été désinstaurée par Trump, à moins que Trump revienne au pouvoir, n'est-ce pas? On verra. Mais non, c'est compliqué, effectivement. Mais alors, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un installateur de fibres qui travaille chez Orange sur les bateaux, parce que c'est vraiment évidemment en mer aussi que ça se joue. Et en fait, il me disait que toutes les négociations géopolitique pure, c'est-à-dire aller négocier dans chaque État de faire arriver un câble énorme, c'était les GAFAM qui le faisaient et que ça arrangeait bien les autres acteurs telco de ne pas avoir engagé des sommes énormes sur des CAPEX qui n'intéressent personne, effectivement. Et c'est toute la question du financement des CAPEX. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui mettra autant d'argent que les GAFAM sur l'installation des futurs 7G ou 8G. C'est tellement d'argent que finalement, c'est un marché quand même qui s'entend un peu quand même.
Les câbles marins, moi j'étais chez Facebook, au premier jour on vous emmène en Irlande et on vous montre d'où partent les câbles, où ils arrivent, ils sont propriétaires, c'est les câbles qu'on va poser.
C'est Google et Facebook, les derniers proposeurs, ce sont eux.
Hein. Elle appartient aux GAFA aujourd'hui.
Allez, dernier sujet, Bruno, c'était toi qui voulais faire un faire-part d'essai, c'était la messagerie ICQ qui cesse son service.
Sur
le petit, c'était le ce petit signal qu'on écoutait tous. Bruno?
Exactement, mais moi j'entendais juste deux OO, moi, à l'époque, peut-être qu'il y en avait trois en France.
Oui.
Mais,
c'est l'écho.
Donc, ça date de 1996, ça a été le roi de la messagerie longtemps, c'était une création israélienne, par la suite rendue populaire lorsque AOL l'a acheté. Et puis, c'est ça, presque 30 ans plus tard, c'est le champ du cygne. C'est Vika, le russe, qui l'avait, mais finalement, comme il y avait de moins en moins d'intérêt par rapport à son utilité, ils ont décidé de tirer la plug, comme dirait Shakespeare. Et résultat, c'est un chapitre de l'histoire de la messagerie. C'est l'ancêtre des WhatsApp, des Messenger à qui on dit au revoir aujourd'hui. Alors, ça valait quand même la mention.
Voilà, et on le dit, en plus, on le dit au revoir aujourd'hui, pile aujourd'hui, puisque ça va être débranché aujourd'hui, mercredi 26 juin. Voilà, on voulait faire un petit signe à ICQ, lancé en 96. Donc, il a fêté bientôt ses 30 ans. Merci à tous les trois. Merci Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Évidemment, on continue à te lire depuis la France, au Québec, à Montréal. Merci à Marion Moreau, journaliste fondatrice Hors Normes Média. Donc, retrouvez toutes ces infos, notamment sur toutes les structures, infrastructures télécom en Ukraine, sur le média Hors Normes Média. Et Lucas Perraudin, fondateur de Mula Digital. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Allez, on se retrouve dans un instant. Le Tech Flash, Léa Benyaim. Et ensuite, on enchaîne. On va parler de la transition vers la mobilité électrique et puis ces étonnantes jumelles astronomiques à réalité augmentée. C'est tout de suite sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de l'actualité tech aujourd'hui avec Léa Benyaim. Bonsoir Léa.
Bonsoir Fred et bonsoir à tous. Et pour commencer, à San Francisco, les robots taxis de Waymo sont désormais ouverts à tous. Jusqu'ici, la filiale de Google avait limité le nombre de clients avec une liste d'attente. Mais après 3 années à sillonner les rues de la ville, ces robots taxis sont maintenant mûrs pour accueillir le public, estime Google. Une étape importante alors que Waymo est toujours sous la surveillance des autorités. La filiale d'Alphabet espère ainsi creuser l'écart avec son concurrent direct Cruise, contrôlé par General Motors. Toujours dans l'automobile, Volkswagen va investir 5 milliards de dollars dans une co-entreprise avec Rivian. En échange de cet argent frais, le constructeur allemand veut profiter des technologies de l'américain. Car même si l'OS de Volkswagen s'est bien amélioré cette année, il n'est pas au niveau de ses concurrents. L'alliance fait donc sens. Rivian est en quête de soutien financier et Volkswagen cherche à accélérer côté logiciel. Elon Musk et Jeff Bezos ressortent la hache de guerre. Blue Origin a déposé une requête pour se plaindre de l'impact environnemental de SpaceX. Selon le fondateur d'Amazon, les retombées des débris associés au lancement fréquent de Starship ont un impact nocif sur l'environnement. Blue Origin suggère donc de réduire le nombre de lancements et d'exiger une indemnisation pour tout dommage causé à un tiers. Elon Musk, quant à lui, s'est contenté de se moquer de son concurrent sur son réseau X, l'accusant d'employer des tactiques juridiques pour entraver les progrès de SpaceX. OpenAI retarde le lancement de sa voix émotionnelle. Présenté en mai lors du lancement de GPT-4o, il permet de tenir des conversations comme un être humain. Sauf que l'entreprise assume avoir pris un peu de retard sur son calendrier. OpenAI veut d'abord améliorer la capacité du modèle à détecter et refuser certains contenus ainsi que l'expérience utilisateur. Sa sortie est repoussée à fin juin pour un petit groupe de bêta-testeurs, puis à l'automne pour l'ensemble des abonnés payants. Et pour finir, En route pour demain, votre rendez-vous mobilité avec Pauline Ducamp. Une émission à retrouver en podcast et en replay sur le site de Tech & Co et sur BFM Business. Et cette semaine, on parle de Citroën qui lance sa nouvelle C3 en version 100% électrique. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Donc, je suis avec Laurent Diot, directeur des opérations pour Citroën en Europe.
Bonjour Julien.
Bonjour. Grand moment, hein, le lancement de cette Citroën C3, cette nouvelle Citroën C3. Est-ce que vous pouvez nous résumer peut-être rapidement les enjeux de ce lancement ?
Alors les enjeux, ils sont, je dirais, il y en a deux. Le premier, c'est qu'on renouvelle notre voiture qui est notre best-seller en Europe, puisque c'est pratiquement 30% de nos ventes. Donc on renouvelle une voiture iconique. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'on a, à travers cette version électrique de la nouvelle C3, on a aussi l'ambition de révolutionner la mobilité durable, la mobilité électrique en Europe.
On y va, on vous retrouve tout de suite notre invité pour parler des solutions électriques testées en Europe.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Notre invité ce soir, Joseph Beretta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'AVER France, qui est une association professionnelle nationale pour accélérer la transition vers la mobilité électrique. Et vous êtes un partenaire de ce projet qui s'appelle Insight EV, EV comme véhicule EV, électrique. Oui. L'EV, lancé, alors c'était en 2020, ça avait été lancé par Renault. Il y aura un événement d'ailleurs les 26 et, enfin aujourd'hui.
Et aujourd'hui, il vient de se dérouler.
Et demain, ici même à Paris et Versailles, pour justement parler de cette mobilité électrique. Alors ce projet, donc, ça vise à dynamiser un peu l'adoption de la mobilité électrique en France. C'est coordonné par le CIRS. Il rassemble, il y a une trentaine de partenaires évidemment dans le monde de, beaucoup dans le monde de l'auto. Budget global 18 millions d'euros. Ça consiste en quoi exactement? Il y a une phase d'étude, phase de déploiement. Expliquez-nous.
C'est un projet qui a été décidé et orienté utilisateur. Donc il y a toute une phase d'étude pour recueillir et comprendre les besoins des utilisateurs vis-à-vis de la recharge. Et les besoins, finalement, une fois que vous avez fait cette étude, ça ressort très simple. Il faut que la charge soit facile, fiable, et finalement que tout se passe le plus simplement du monde. C'est pour ça que différentes solutions...
Y compris dans la partie financement et coûts,
oui,
et tout ça.
Y compris, à la limite, l'idéal, si vous êtes un utilisateur d'une voiture électrique, vous stationnez, et finalement, vous abandonnez votre véhicule sur la place de stationnement, elle se recharge toute seule et vous recevez la facture chez vous.
Parce qu'aujourd'hui, pour vous, les freins que vous avez identifiés, c'est ça, c'est l'infrastructure de recharge qui est encore insuffisante.
C'est un des freins. Il y a eu beaucoup de freins identifiés. Oui, oui. On commence toujours par le plus haut, c'est le coût. Il faut, s'il n'y a pas les aides, c'est toujours compliqué. Mais bon, ça devrait s'estomper avec
l'autonomie des voitures. Enfin, voilà,
avec avec la démocratisation des voitures, hein, puisque de plus en plus il y a de modèles, les constructeurs investissent. L'autonomie, ça commence à devenir quelque chose qui est suffisant pour traiter la majorité.
Il faut le réseau électrique aussi pour amener de l'électricité.
Le réseau électrique,
ces bornes,
si vous questionnez le réseau électrique français, Enedis, EDF, ils vous disent il n'y a pas de souci à condition de faire de la charge intelligente.
Oui.
Donc, vous voyez, on va mettre de l'intelligence aussi dans la charge. Et puis, dans le projet, on a voulu aller un peu plus loin parce que finalement, le véhicule électrique, il a toujours ce petit fil à la patte. Ce petit fil qui l'embête, et on s'est dit, pourquoi pas supprimer ce fil et arriver à ce qu'on appelle la charge inductive, la route électrique.
Alors ça, on en parle depuis un moment.
Depuis longtemps, oui.
Moi, j'ai fait beaucoup de chroniques Culture Geek, là, où on parlait de toutes ces rues-là. Il y avait je crois que c'était pas loin d'ici, il y avait Lizzie, ils avaient fait une route expérimentale sur quelques centaines de mètres.
C'est ça.
Alors qu'est-ce qui va être le déclic autour de ces...
Qu'est-ce qui va être le déclic? C'est l'évolution de la technologie et aussi la simplification vis-à-vis de l'utilisateur. C'est quand on parle d'induction, de recharge par induction, c'est comme quand vous chargez votre téléphone, vous le posez sur un inducteur et finalement l'énergie est récupérée par votre téléphone directement, sans contact, sans rien. Donc là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, c'est pas seulement à stationner votre voiture, c'est aussi récupérer de l'énergie en roulant pour lui donner un peu plus d'autonomie. C'est-à-dire, cette énergie que vous récupérez, elle va servir à faire rouler la voiture et vous déchargez pas votre batterie.
Et est-ce que ça demande, on comprend au sol, évidemment, une infrastructure particulière, des nouvelles technologies à mettre en place, mais est-ce que les voitures qu'on est en train d'acheter, de construire, il va falloir aussi revoir un peu leur architecture
clair,
ça va être assez simple de les basculer en recharge par induction?
Ah non, ça sera des nouveaux modèles. Il faut déjà... Là, on est dans un projet, finalement, de validation de la technologie. Et c'est ce qu'on a fait, puisque les prototypes sont opérationnels. Ça a été montré. Vous avez des vidéos qui vous les montrent. Si vous voulez voir, il y a la démonstration demain à Paris de cette recharge par induction dynamique. Dynamique parce que le véhicule roule.
Si quelqu'un nous écoute, qui veut aller voir ça, ce sera à quel endroit?
C'est rue Floréal.
Voilà, rue Floréal.
Mais effectivement, c'est réservé quand même. On a bloqué la rue et... Mais il pourra voilà, faire
on,
ça.
On pourra venir voir.
Il pourra venir voir après. Et finalement, ces bobines d'induction sont intégrées dans la rue. On le voit pratiquement pas. Elles sont intégrées sous le sol. Hein.
Mais le principe, c'est d'avoir. Oui. Alors pour ceux qui nous regardent en télévision, on voit exactement le principe. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des rues comme ça dans Paris ou dans un parking public, d'avoir une allée qui serait comme ça, qui permettrait de se recharger.
Poser la question, comment on va déployer ça? Comment on va déployer ça? Bah, c'est clair que ça va nécessiter quand même de mettre autour de la table les différents partenaires. Donc on arrive aux fournisseurs d'électricité, aux ceux qui installent les routes,
l'aménagement urbain,
les constructeurs automobiles.
Et les fabricants de parking, pourquoi pas aussi?
Enfin, les constructeurs de parking. Quand on fera du statique dans les parkings. Et dans les villes, l'idée que sur la rue Floréal, c'est de dire, à la limite, quand votre véhicule roule, vous consommez pas d'énergie, ou vous-même rechargez votre batterie, et même installer ça sur des feux tricolores, quand la voiture est arrêtée, vous restez plus longtemps sur cette zone de recharge, donc vous récupérez un peu plus d'énergie. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est effectivement la démonstration que la technologie fonctionne.
Et on arrive à avoir une charge suffisamment forte, la puissance électrique elle peut être suffisamment forte par l'induction qu'une prise filaire
suivant le type de véhicule, entre 25 et 90 kilowatts.
Oui.
Donc vous êtes déjà dans de la charge qui est en moyenne puissance. Quand vous chargez chez vous, c'est du 3,7 à 7 kilowatts maximum. Sur la voie publique, vous avez des bornes rapides à 22 kilowatts et même des bornes à 150. Vous voyez, on transfère quand même pas mal d'énergie.
Et comment comment se rémunéreront les opérateurs? Comment moi, avec ma voiture, je vais passer dans la rue Floréal, là,
La deuxième démarche qui reste à faire, c'est ça, c'est-à-dire de mettre en place les business models et mettre en place toutes les technologies de communication qui vont avec, parce que c'est pas tout là, l'expérimentation, on valide la technologie électrique, après il faut valider la technologie de paiement, la technologie de fiabiliser tout ça, et en parallèle il y a des actions qui sont menées, ce qu'on appelle le plug and charge, c'est-à-dire de pouvoir stationner son véhicule, utiliser les bandes de charge actuelles, prendre le cordon, brancher sur le véhicule et s'en aller sans badger, sans rien faire, et vous recevez la facture. Et pour la charge inductive, ça sera ces normes-là qui seront appliquées. Votre voiture va passer sur la partie de route inductive, elle va être détectée par la route.
Et c'est comme ça qu'on se rend.
Et c'est comme ça que ça déclenche, parce que ça aussi, c'est toute une démarche à mettre en place, mais c'est aussi toute une démarche technique, parce qu'il ne faut pas que l'inducteur émette son champ magnétique quand il n'y a pas de voiture.
Oui. Donc, il y a cette perte aussi. Et puis, alors on sait qu'on commence à voir au niveau des bornes, il y a aussi le côté de recharge intelligente dans les deux sens. Quoi.
Oui,
la voiture peut se décharger si elle a trop d'électricité vers le réseau. Est-ce qu'on pourra faire ça aussi sur des routes inductives?
Pas tout de suite. Pour l'instant, la technologie qui a été validée...
Rechargeons déjà.
Mais dans le projet, dans ce grand projet européen, il y a d'autres démonstrateurs qui valident aussi cette technologie qui est appelée V2G, Vehicle to Grid, ou Vehicle to X, si on veut alimenter sa maison. Et donc, il y a aussi des technologies qui ont été démontrées. Des résultats montrent les avantages de ce V2G qui permet de soulager le réseau. Et il y a un partenaire des Pays-Bas qui a fait une grande expérimentation sur 200 bornes de charge publique, faire du smart charging pour commencer, c'est-à-dire quand le réseau est sous contrainte, on arrête la charge de ses voitures électriques, et quand le réseau repart, on reprend la charge. Et là aussi, on va tomber sur le problème de la rémunération, parce que c'est pas le courant que je prends, c'est pas à moi de payer, c'est à moi d'être payé.
C'est à vous d'être payé. Voilà. Bien, merci Joseph Verretta. Merci, je rappelle, vous êtes président de l'Aver France, vous êtes partenaire de ce projet Insight EV, donc sur les solutions de charge électrique testées en Europe. Il y avait un événement aujourd'hui, il y en a un autre demain rue Floréal, pour ceux qui veulent aller voir comment se passe une route à induction. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, tout de suite, on retrouve Tech & Co.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
La chronique Tech & Co avec Willem Gay. Bonsoir Willem.
Bonsoir Frédéric.
Alors on va parler de jouets, parce que l'intelligence artificielle s'invite dans tous les secteurs. Ce sont désormais les annonceurs qui font appel à ces services. La chaîne de magasins de jouets Toys R Us a utilisé Sora d'OpenAI pour réaliser une vidéo sur l'origine de la marque.
Et oui, absolument Frédéric, les films publicitaires générés par IA sont désormais réalité, et selon les dires de Toys R Us, eh bien il s'agirait de la première publicité réalisée avec l'aide de Sora. Vous savez, Sora, c'est le dernier bijou technologique d'OpenAI qui permet notamment de générer des vidéos à partir de simples requêtes textuelles.
Alors, on n'y a pas encore eu accès, nous.
Certainement d'ici la fin d'année, hein, normalement.
On attend ça avec impatience.
Exactement. Et quand on a vu cette publicité, eh ben, on peut dire qu'elle est plutôt réussie. Hein. On y voit un petit garçon plus vrai que nature qui rêve dans son sommeil et se retrouve dans un univers rempli de jouets. Geoffrey la girafe, la mascotte de l'ancienne, est présente, bien sûr. Mm-hmm. Elle est même animée. Et à travers cette publicité, eh bien, Sora a finalement réalisé le rêve de nombreux enfants.
Et alors, est-ce que le boulot, le travail, les tâches des publicitaires vont être effacées? Est-ce que c'est l'IA qui va faire tout le boulot toute seule?
Bien, on va dire que c'est un petit peu plus subtil que ça, hein, oui, forcément.
Imagine. Ça va être la révolution aussi. Hein.
Exactement. Il y a eu quelques effets spéciaux qui ont été ajoutés en post-production, hein, vous vous en doutez. Et puis, histoire de mettre un petit peu de chaleur humaine à tout ça, eh bien, ils ont fait appel à la voix d'Aaron Marsh, le leader du groupe de rock américain Copland. Mais ce qui est vraiment bluffant, après tout, hein, c'est que c'est la vitesse à laquelle ils ont pu concrétiser le projet. Il a fallu seulement quelques semaines pour réaliser cette pub, hein, contre plusieurs mois pour une publicité traditionnelle, effectivement.
Oui, parce qu'il faut les lieux de tournage, il faut réunir l'ensemble de l'équipe de production.
Et puis là, on parle quand même d'une publicité qui dure 1 minute 30, donc c'est une publicité assez conséquente, ce n'est pas rien. Et c'est certainement le début d'une petite révolution dans le monde de la communication. Et je ne sais pas vous, Frédéric, mais moi, ça commence à me faire un petit peu peur, finalement.
Oui, c'est vrai que là, dans la pub, on commence à voir ces métiers un peu disruptés. Eh bien, merci, Willem Gay. Évidemment, tous ces articles, et notamment celui-ci, sont à retrouver sur le site de Tech & Co. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, on enchaîne. On attend ça avec impatience, des jumelles astronomiques avec réalité augmentée. C'est tout de suite sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
Avec nous, Laurent Marfizi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général et cofondateur de Unistellar. Alors, fondé en 2016, on vous avait connu pour les télescopes intelligents. Alors, c'était un financement participatif aussi à l'époque,
en 2017. On s'est lancé un bon grand coup en 2017 avec un très beau financement participatif sur Kickstarter, la grande plateforme américaine mondiale, renommée mondiale. Et c'est comme ça qu'on a démarré ce premier produit révolutionnaire qu'on a lancé, le télescope intelligent.
Juste un mot, ça veut dire quoi, télescope intelligent?
Un télescope intelligent, c'est nous qui avons défini cette catégorie puisqu'on l'a initié. C'est un télescope qui va pointer tout seul dans le ciel, qui va vous suggérer ce qu'il y a d'intéressant à voir, et puis surtout qui est extrêmement puissant parce qu'il y a des capteurs très sensibles à l'intérieur qui vont vous permettre de voir mieux.
Oui.
Et plus loin que dans un télescope traditionnel.
Il faut quand même le dire, pour ceux qui sont un peu amateurs dans le domaine, on est un peu déçus. On nous dit, regardez, il faut chercher, il faut quelqu'un qui nous explique vraiment qu'il y a l'anneau ou la constellation qu'on est en train de regarder. Et c'est vrai qu'être aidé par un outil, donc c'est ce que vous avez voulu faire avec Envision. Hein,
C'est un projet un peu différent. C'est des jumelles intelligentes.
Alors c'est fait avec Nikon, hein, je crois.
Les optiques sont faites en partenariat avec Nikon. Et ce sont des jumelles intelligentes qui vous permettent d'appréhender votre environnement aussi, de façon aussi intuitive et aisée que si vous étiez un expert. Mm-hmm. Et donc, votre environnement, c'est deux choses. Ça peut être la nature quand vous vous promenez à la montagne, etc. Et ça peut être le ciel nocturne, les étoiles, etc., où vous allez pouvoir vous balader dans le ciel comme si vous étiez un astronome expérimenté, grâce à de la réalité augmentée qu'on a injectée dans ces jumelles, qui sont en fait une base de jumelles classiques, optiques.
Oui, on les voit, hein, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent en radio. Voilà, c'est une paire de jumelles assez classique, assez massive, assez costaud. Enfin voilà, on est dans la paire de jumelles classique. Évidemment, toute l'intelligence est à l'intérieur.
Exactement. Et on a ajouté donc de l'intelligence, de la réalité augmentée, qui va augmenter finalement votre champ visuel avec des informations, vous va pouvoir vous guider vers des objets d'intérêt, etc.
Alors, je parlais de jumelles astronomiques parce que j'étais resté basé sur le télescope, mais vous disiez à l'instant, ça peut être en randonnée, je regarde une montagne, on va pouvoir
m'expliquer, tout à fait,
dire, ça c'est tellement, alors est-ce que c'est lié à un GPS, est-ce que ça peut dire là vous êtes, vous voyez le col de je ne sais quoi?
Exactement, ça fonctionne de jour et de nuit, c'est lié au GPS de votre téléphone, et il y a une centrale IMU à l'intérieur qui gère toute l'orientation des jumelles. Et il y a quatre modes d'utilisation très simples. Un premier mode qui est le mode de reconnaissance intelligente, dans lequel vous chaussez tout simplement vos jumelles et puis vous observez votre environnement et vous allez voir comment serpente le chemin que vous êtes en train de suivre dans la montagne, le nom de la montagne, le revue.
Donc ça va s'afficher
là,
sur le...
Exactement, sur surimpression sur votre champ visuel.
Là, je suis en mode déconnecté, c'est-à-dire je n'ai pas obligé d'avoir mon smartphone, j'ai déjà des choses qui sont téléchargées.
Exactement, vous pouvez télécharger, si vous savez que c'est un endroit où il y aura peu de connectivité, vous téléchargez juste avant et vous avez tout dans les jumelles sur des grandes étendues.
D'accord.
Télécharger une bibliothèque de cartes.
Donc ça c'est un premier usage. Et puis derrière, il y a l'usage quand on est connecté au smartphone, donc connecté à un réseau, ou les lunettes elles-mêmes, j'imagine, peuvent être connectées direct au réseau.
À travers le smartphone.
Et alors, est-ce que, parce que évidemment, les réseaux sociaux sont passés par là. Quand je prends une photo, j'aime bien la partager avec mes amis. Est-ce que là aussi, on commence aussi à être un peu, on va pouvoir partager les vues, tout ce qu'on est en train de regarder avec nos.
Alors non. Les jumelles n'ont pas de caméra. On fait de la réalité augmentée à travers des cartes. Hein, maintenant, tout est mappé hein, sur Terre, le ciel comme la Terre, et on va enrichir votre environnement avec votre position, l'orientation des jumelles et ses bases de données. Et pour en faire un produit léger.
Il n'y a pas d'appareil photo. On va pouvoir appuyer. Enfin, on va pouvoir dire tiens, ça c'est prendre la position, connaître la position, et c'est là où on pourra dire à quelqu'un tiens voilà, si tu veux voir exactement cette même vue, prends telle.
Et vous pouvez passer les jumelles et ils vont pouvoir voir là où vous avez vu les bouquetins, etc.
Là, on est dans quel ordre de prix pour ce type de produit?
Alors, le prix public final sera à 1 200 $, et là. Sur le lancement Kickstarter, en précommande, c'est quasiment la moitié du prix, c'est à 700 $.
D'accord. Donc là, parce que vous relancez encore avec le succès que vous avez eu pour le télescope, le but c'est financement participatif.
Tout à fait, voilà, c'est un projet industriel assez ambitieux. Hein, ça fait très longtemps que des gens essayent de sortir des jumelles intelligentes. Mm-hmm. On a résolu pas mal de problèmes techniques et maintenant, pour l'industrialisation, on a besoin de l'aide, déjà de faire une première grosse commande auprès d'un industriel. Et de finir les quelques derniers développements.
C'est quoi justement la difficulté? Alors évidemment, il faut être positionné au bon endroit pour pas qu'on nous raconte n'importe quoi sur le paysage. Je vais rester sur l'idée du randonneur, mais pour être certain du paysage que l'on regarde, qui nous donne les bonnes indications, le chemin à prendre, etc. C'est quoi la difficulté là pour mettre?
Il faut une puissance de calcul et puis il faut une IMU très précise.
IMU?
Une IMU, c'est une centrale inertielle. D'accord. En fait, avec un gyro, un magnétomètre, un accéléromètre,
la boussole, etc. Enfin voilà, tout ce qui est
toutes ces choses-là, le GPS, faire des redondances là-dedans, une sauce secrète dont on est en train de déposer le brevet, donc je peux pas vous en dire plus, qui permet en fait d'avoir suffisamment de précision pour avoir une expérience intuitive et fluide.
Et pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'on se dit tous les fabricants de jumelles devraient commencer à rajouter un peu de la réalité augmentée pour nous donner les noms.
C'est des problèmes de précision, notamment sur les magnétomètres en fait. D'accord. Les magnétomètres manquent de précision. Et donc, c'est un challenge. C'est un challenge.
Le fonctionnement de jour comme de nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire les capteurs ils vont repérer évidemment que la luminosité extérieure est moins forte et donc s'aligner, enfin nous envoyer un peu plus de lumière, enfin un peu comme.
Ça reste des jumelles optiques naturelles. Sur l'optique, l'image que vous voyez, c'est naturel. Il n'y a que la réalité augmentée qui est digitale et qui vient être injectée dans votre champ de vision. On dit que ça marche de jour et de nuit parce que ça vous aide pour l'observation du ciel.
Oui.
Vous allez pouvoir voir les constellations, être guidé vers cette comète.
Vous regarder l'ADN du télescope que vous aviez
tout
avant.
À fait, mais aussi de jour.
Et alors, pour l'usage, alors là, vous disiez participatif, on peut payer ça 700 euros si on participe sur le financement, sinon elles seront 1 200 euros. Il y a des métiers qui vont pouvoir. Enfin, est-ce que vous ciblez aussi du B2B2C? Enfin, voilà.
Alors, on est plutôt sur le grand public, mais tout à fait. Il y a plein de métiers qui seront heureux d'avoir ces jumelles-là. Moi, je pense un planétarium qui veut pouvoir. Montrer à ses visiteurs plus facilement, va pouvoir passer ses jumelles et ils vont pouvoir être guidés et l'animateur va pouvoir leur donner des informations, etc.
On est sur Kickstarter, là aussi.
Sur Kickstarter, tout à fait.
Eh bien, Laurent Marfizi, merci, directeur général, cofondateur d'Unistellar. Donc, Kickstarter, ça s'appelle Envision, ce sont ces lunettes qui nous ferait plaisir d'avoir, sans doute pour les vacances, hein, pourquoi pas. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business, Tech & Co, la quotidienne. C'était terminé. On se retrouve ici même demain, même heure, même endroit. D'ici là, excellente soirée sur BFM Business.